L'ancien journaliste et conseiller municipal ici à Québec, Jacques Tisdale, est décédé au mois de juillet dernier suite à un cancer du poumon. Cancer qui aurait pu être évité. Et la famille de Jacques Tisdale veut engager une poursuite de près de 1 million de dollars, notamment là, contre le CHU de Québec et la médecin de famille. On aurait oublié d'effectuer d'importants suivis médicaux. Pour nous raconter cette triste histoire, pour nous jaser de la poursuite et de la situation actuelle, on a le fils de Jacques Tisdale, Olivier Tisdale, en studio avec nous. Olivier, bon matin.
Bon matin.
Merci d'être là avec nous ce matin. Puis tout d'abord, nos sympathies pour le décès de ton père
un peu plus tôt
cet été. Où commencer dans cette histoire-là?
C'est une saga épouvantable.
Peut-être commencer... Bon, ton père décédé au mois de juillet. Oui. Ça remonte à combien de temps, là, si on retourne dans le temps un petit peu, là... Les premiers symptômes de ton père?
Si on peut faire un résumé, là, en bas des années 2020, mon père avait des essoufflements. Puis en 2020, en décembre 2020, il a fait passer un taco à l'hôpital de l'Enfant Jésus par un pneumologue, le pneumologue Pierre Damour, le chef de l'unité de pneumologie du CHU de Québec. Fait passer un taco en décembre 2020 pour ces essoufflements-là. Donc, il revoit mon père ensuite en janvier 2021, là, pour le suivi du taco. Il y a toujours un délai entre les deux pour avoir un suivi. Ouais. Le temps d'avoir les résultats du taco, bien entendu. Il faut comprendre, on est à mi-décembre, les fêtes arrivent, donc mon père revoit le pneumologue Pierre Damour en mi-janvier 2021, qui lui annonce qu'il y aurait un nodule sur un poumon. Qu'il faudrait faire un suivi. Qu'on vienne les deux ensemble de faire un suivi un an plus tard, soit en décembre 2021, pour faire... histoire courte, là, s'assurer que ça évolue pas ou que ça régresse ou que peu importe, ça soit pas malin.
Fait qu'il y a de quoi.
Exactement.
Et on s'entend qu'il faut faire un suivi.
Exactement. Okay. On convient, c'est écrit noir sur blanc, qu'on doit faire un suivi un an plus tard. Donc, mon père quitte le bureau du pneumologue à ce moment-là, qui était à l'Enfant Jésus, revient chez lui. Un an plus tard, pas de nouvelles. Il rappelle en janvier 2022. Pour voir si son suivi est à faire. Puis on n'a pas de retour. Fait que mon père, comme je le disais d'ailleurs précédemment, mon père se dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle, ça va bien, on continue. »
Qui est la réaction de pas mal de gens.
Ben,
réaction normale.
Je pense que c'est une réaction normale. Si on se fait pas rappeler, généralement, on dit toujours « s'il y a personne qui nous rappelle, ça veut dire qu'il n'y a rien de grave. »
Surtout si toi, tu rappelles pour voir s'il y a quelque chose.
Exactement.
Puis quand encore là, on ne donne pas de nouvelles.
Exactement. Donc, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Les années passent, Jacques rentre entre 2022, si on veut, là, le janvier 2022, même en 2021, après avoir vu le pneumologue septembre, novembre, après ça janvier 2022, février 2022, 2023. 5 fois à l'urgence pour problème pulmonaire assez grave, parce que force est d'admettre qu'on le rentre à l'hôpital en ambulance. Je veux dire, on ne va pas le porter dans une voiture, il n'est pas capable de marcher.
Fait que là, c'est des gros troubles respiratoires,
exact.
Le fond, s'il rentre en ambulance parce qu'il est même plus capable de se déplacer dans sa maison.
La saturation descend extrêmement. On parle d'une saturation normale, je pense, d'un être humain 94-96, genre qui est à 88-85. On le rentre à l'hôpital, on le ressort pour bronchite, pneumonie. Ça va chez eux, la vie est belle, prendre médication, la vie est belle, on retourne à la maison.
Puis est-ce qu'on fait des tests plus approfondis compte tenu de son historique?
Outre les radiographies puis les prises de sang qui ont été prises à l'urgence, rien d'autre n'a été fait. Et c'est là où on en vient. 5 fois à l'urgence, entre 4 et 5 fois à sa clinique de médecine familiale, entre 2022 et 2024. Si on se rapporte au temps où mon père a été diagnostiqué le 4 mai 2024 avec un cancer du poumon stade 4, ces gens-là, donc, il y a 10, si vous voulez, il y a 10 visites dans des systèmes hospitaliers, soit en médecine, 10 opportunités de se rattraper. Parce que lorsqu'on consulte le dossier médical de mon père, lorsqu'il se présente à l'urgence, on revoit toujours les mêmes phrases. Suivi, pneumologie, taco, Pierre Damour. Mais pas plus. On ne pousse pas plus loin. Il a fallu qu'il y ait un urgentologue le 4 mai 2024 qui soit allumé peut-être plus que les autres, peu importe comment il l'a fait. Il dit, « Monsieur Tisdale, vous ne sortez pas un matin. Vous avez une bosse claviculaire qui est assez incroyable. Là. C'est, je regarde la tasse de café de votre collègue, c'était au moins la grosseur de la tasse de café au niveau de la clavicule. » Mais vous avez aussi votre nodule qui était en 2020 à 5 mm. Donc, si vous, je pense que tout le monde sait qu'est-ce que ça représente 5 mm sur une règle. On a tous été à l'école. Mais il est rendu à 2,8 cm. Donc, dans les 3-4 dernières années, ce nodule-là, donc on dit à Jacques que c'était un nodule, a pris de l'expansion. Il est devenu un cancer de stade 4 des poumons.
Y a-tu, Olivier, quelqu'un, à un moment donné dans tout ce processus-là, parce que je t'écoute puis je capote un peu, on veut le...
On veut évidemment le mieux pour les gens qu'on aime.
Exact.
Nos parents. Y a-tu à un moment donné quelqu'un qui lève la main et dit hey, oh, faut pousser plus loin. Hey, gars, tu sais quoi? Les 7-8 autres fois, on l'a peut-être échappé un peu, mais là, maintenant, la 9-10, tu sais quoi? On l'a échappé un peu. Let's go, on va pousser ça plus loin, puis on est désolé.
Comme je vous disais, à l'exception de l'urgentologue qui s'est réveillé ce matin-là, le 4 mai, jamais, Jacques, dans les 10 visites médicales, que ce soit avec son médecin de famille, Véronique Fournier, Amélie Bouchard, son infirmière praticienne, Pierre Damour l'a jamais revu ensuite. Personne n'a levé, en anglais on dit le red flag, ouais. Personne n'a levé un red flag pour dire « Monsieur Tisdale, ça va pas bien ». Jacques surutilisait sa pompe de Ventolin depuis un an et demi. Il apprenait. Et en 2023, on constate dans le rapport médical d'Amélie Bouchard qu'elle trouve qu'il surutilise sa pompe. Elle demande de rappeler son pneumologue. C'est pas comme ça qu'on devrait faire le système. Vous savez, il rappelle. Un patient rappelle à l'hôpital, souvent, on n'est pas rappelé. Le travail de l'infirmière praticienne et de son médecin de famille était de dire, écoutez, en 2021, vous deviez avoir un taco. C'est jamais fait. Personne ne l'a jamais fait. Je vous le disais tout à l'heure, si ça avait été pas écrit, ce serait difficile à croire. Mais c'est écrit. Donc, les écrits restent. On dit les écrits restent, les paroles s'envolent. C'est écrit partout dans son dossier. Donc, il avait la chance de faire ces examens-là puis de pousser au moins un suivi qui n'a jamais eu lieu.
Oui. Donc, si je comprends bien, depuis 2021, il est censé avoir un suivi.
Exact.
Il voit sa médecin de famille, l'infirmière praticienne à 5 reprises.
Exactement.
Jamais on l'envoie faire ce suivi-là.
Jamais.
Puis, en plus, il utilise sa pompe de façon exagérée, puis on clique même pas à dire
exact.
OK, ouais, il y a peut-être d'autres choses. Il y avait un nodule en 2020. Comment c'est peut-être ça? Jamais ça est venu à l'esprit de la médecin de famille et de l'infirmière.
Puis, il faut penser aussi qu'en 2021, lorsqu'on voit Jacques, on dit que c'est un nodule, je pense que ça n'a pas été expliqué dans les règles. Parce que si on se fie au rapport radiologique qui a été fait du taco, c'est écrit dans ce rapport-là adénocarcinome in situ suspect. Si on fait la définition d'adénocarcinome in situ suspect, c'est un cancer qui est malin.
OK.
En début de progression. Donc, il est suspect.
Fait que c'est loin d'être juste un petit événement anecdotique. Là.
Lorsqu'on parle aux oncologues qui s'occupent de genre, ce qu'on nous dit, c'est que ce suivi-là aurait dû être fait aux 3 mois. Et non. Ben là, dans le cas de genre, on sait que c'est 4 ans parce que ça n'a jamais été fait.
Ouais.
Mais une personne normale, que ce soit vous, moi ou un autre qui a un adénocarcinome sur un poumon, devrait être vue aux 3 mois. Et devrait entreprendre un traitement qui est curatif, un traitement qui peut être de la radiothérapie, de la chimiothérapie. C'est ça qui n'a pas été fait dans le dossier de mon père. Puis il est sorti, malheureusement, du bureau du pneumologue en 2021 avec une bombe à retardement dans les poumons.
Est-ce qu'il y a eu des excuses ou des explications de comment ça a pu se perdre?
La plus grande explication qu'on a, je pense que c'est la plus simple, c'est que le dossier de mon père a été oublié. Mais dans mon cas, maintenant, aujourd'hui, je croyais cette explication-là lorsqu'on nous a rencontrés au début mai, que le dossier de mon père avait été oublié, qu'il est tombé dans le crack ou entre deux chaises, comme on dit. Mais plus on a avancé dans le dossier, c'est qu'en fait, le dossier de mon père n'est jamais ressorti du bureau du pneumologue. La seule chose qui est sortie de ce bureau-là, c'est de dire qu'il devait avoir un suivi un an plus tard, puis les dizaines de visites que mon père a faites dans les 60 hospitaliers ou médecins de famille, personne n'a jamais levé le flag pour dire « Monsieur Tisdale, ça va pas bien. Là. Vous aviez un rendez-vous à faire en 2021. Personne ne vous a appelé. » Non. Il n'est jamais sorti, malheureusement, ce rendez-vous-là.
Olivier, c'est à quel moment, en tant que famille, qu'on prend la décision qu'il faut aller plus loin avec ça, il faut pousser plus loin avec ça, il faut peut-être considérer une poursuite contre différentes personnes?
Bien, je veux dire qu'au début, on digère. Hein, la première journée qu'on apprend que son père a un cancer des poumons. T'sais, vous savez, mon père, moi, c'était mon rock, c'était mon partner d'affaires, c'était mon buddy, c'était mon ami, c'était mon modèle. Les premières journées, on digère, puis après, on discute, puis là, on se dit, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Mais il faut comprendre qu'il y a un dossier médical au travers de ça, puis il faut démêler tout ça. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, si ce n'est pas écrit, on peut dire bien des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est ces choses-là qui sont les vraies choses. Alors, on prend le temps, on analyse le dossier. Une fois qu'on a analysé le dossier, il faut parler d'un dossier au CHU de Québec de 581 pages et la clinique de Loretteville de 287 pages. Donc, il faut réunir ces deux dossiers-là, les étudier, puis voir ce qui est écrit. Puis je vous dis, j'ai 44 ans, j'ai peut-être pas l'expérience de vie que mon père avait, mais quand j'ai lu tous ces documents-là, parce que je peux vous assurer que je les ai lus page par page, je suis tombé en bas de ma chaise.
En fait,
ça m'a fait une grande peine de voir qu'on pouvait laisser une personne à elle-même comme ça, malheureusement.
Puis rajouter à ça, il y a également eu des soins de fin de vie à l'hôpital qui sont qualifiés d'inhumains. Veux-tu nous en parler?
Oui, écoute, ça a été la pire période de ma vie pour moi, pour ma famille, pour ma mère. Je pense que pour mon père, mais mon père avait cette force-là, Vous êtes plus jeune, peut-être, vous n'avez pas eu la chance de le voir à la télé. Nous autres, on le voyait parce qu'on était jeunes.
Ouais, ouais, ouais.
C'était un grand bonhomme, il était fort. Mm-hmm. Puis malgré la maladie, puis malgré ces soins-là, je peux vous dire qu'il continuait à vouloir s'occuper des autres pareils.
Ouais,
il nous disait, documentez votre dossier, prenez des photos, prenez des vidéos, faites des enregistrements. Quand je ne serai plus là, vous ne pourrez pas faire ce que je fais là. Mon père a eu des soins, je le mentionne dans le Journal de Québec, exécrables, et je vous dis pourquoi, parce que j'ai vu mon père dépérir, mais sans aide. Quand je laissais mon père à l'hôpital, j'étais plus inquiet de le laisser à l'hôpital que de l'avoir avec nous à la maison. On ne changeait pas ses couches. Mon père avait une forme d'hypertension pulmonaire aux jambes causée par la maladie, qui faisait que ses jambes coulaient, saignaient, comme une chute. Hein? Souvent, les gens pensaient qu'il avait uriné par terre, mais c'était pas ça, c'était ses jambes. Le CLSC venait à la maison changer minimalement ses pansements deux fois par jour. À l'hôpital, on le laissait baigner dans ses pansements.
Ça n'a pas de sens.
J'ai des photos qui lèvent le cœur. Mon père m'a dit « Prends-les pareil parce que je veux que ces photos-là soient vues un jour. » Je suis arrivé avec mon équipe du garage parce qu'on est une équipe unie. Les gars aiment mon père. On est allé manger avec. On est arrivé. Il est là en avant de son repas. Les deux, ses bras bougeaient pratiquement pas. Personne l'aide pour manger. On ne changeait pas ses couches. Un soir, mon père m'a appelé en laissant sur le main libre. Ça, c'est son réflexe de journaliste.
Ouais,
laisse
oui.
le téléphone sur le main libre. J'entends quelqu'un. Je mentionnerai pas les mots parce que c'était très vulgaire, mais tu sais, c'était vulgaire pour lui. Il a fallu que je parte à minuit le soir avec ma mère. J'ai dit, écoute, on s'en va à l'hôpital, ça va pas bien dans sa chambre. Il était en traitement, ce qu'on appelle VNI. Il voulait aller seulement à la toilette, puis là, on l'empêchait d'aller aux toilettes. Il y avait de l'urine partout à terre, des excréments dans son lit. Il a fallu qu'on choque. Ce qui nous a amené au 5 juillet à dire, là, c'est assez. Avec l'avocate qui nous représente, on a envoyé une mise en demeure au CHU de Québec. On dit, là, voici ce qu'on a constaté. Ça marche pas. On peut pas continuer dans des soins comme ça. De un, c'est pas humain. La manière qu'il se fait parler, c'est pas humain non plus. Faut voir les photos pour le croire.
Okay.
C'est assez incroyable quand on vous dit qu'il n'a pas été bien soigné. Jacques saignait beaucoup. On mettait des oreillers par-dessus les plaques de sang dans son lit pour pas faire le lit. Il était dans ses couches 24 heures. Puis assez pour vous dire que à des journées, je faisais avec un charpie des marques sur sa couche, sur ses pansements pour savoir si on me disait qu'elle allait être changée. Puis ça, c'est quand même ironique. Quand on nous a rencontrés à la suite qu'on a envoyé notre mise en demeure, on m'a dit « Non, non, les pansements ils ont été changés, il n'y a pas de problème, la couche a été changée, parfait, on va aller voir. » Puis la marque de charpie
était là.
Sur la couche et sur les pansements. Je les avais faites la veille à 2 heures. On est le lendemain à 1 heure.
C'est tellement...
Fait que tu sais, je vous dis, c'est des petits trucs, mais j'avais plus confiance au système, malheureusement.
Puis comment ils ont réagi quand ils ont vu les marques de charpie?
Ben, écoute, ils nous ont fait une grosse réunion de comité avec 6 personnes. Ils nous ont parlé qu'elle allait changer, qu'elle allait améliorer les soins. Mais j'ai dit, vous rendez-vous compte d'une chose. Il a fallu qu'on prenne un avocat, qu'on paye une mise en demeure pour vous l'envoyer, pour que vous amélioriez les soins à mon père. Là, on l'a fait, nous. Ils sont à peu près 60 sur cet étage-là. Là. Eux autres, il n'y a peut-être pas tout le monde qui a la force de le faire.
Mm-hmm.
Fait que ça a été leur réaction. Quand on leur montre les photos... Puis je me rappelle très bien les mots de son oncologue. Elle dit « C'est choquant et je suis choqué de ce que j'apprends ce matin. » Mais je vous le dis, c'est des photos qui sont dures à regarder aujourd'hui parce que vous constatez que c'est mon père.
Ouais.
Mais ces photos-là, si on les avait pas prises, si on n'avait pas pris ces vidéos-là et les enregistrements, personne ne nous croirait. On disait à mon père « On change pas vos pansements, on veut pas se déboîter le dos. » Parce que mon père, il faut comprendre qu'il n'est pas capable de se coucher.
Okay.
Quand les gens du CLSC venaient à la maison, ils faisaient ses pansements, petit bonhomme à terre, puis ils faisaient rire mon père. À l'hôpital, on ne voulait pas faire ça parce qu'on ne peut pas faire ça pour se déboîter le dos. Il y a sûrement une méthode. Je veux dire, on est à l'hôpital. Il y a une méthode. On a des solutions.
En 2024.
On ne peut pas laisser ses jambes comme ça. Écoute, ça baignait dans le sang, ça baignait dans le liquide infectieux. C'est assez incroyable.
Ouais. Évidemment, une poursuite comme ça, Olivier, tu sais, ça a un côté très, très, très personnel.
Oui.
C'était ton père, mais c'est plus que ça. Hein. Je pense qu'on veut s'assurer que ça ne se reproduise plus non plus.
Il faut aller au-delà de tout, puis c'est pour ça qu'on fait une sortie aussi publique. On le fait pas juste pour nous, mais on le fait pour tous ceux qui vont vivre ou qui ont vécu ça. Parce qu'il faut comprendre que, je disais à Alcyane ce matin, on a un chiffre qui s'appelle 333. C'est un chiffre banal pour du monde, mais 333, c'est 333 messages qu'on a eus depuis le 4 mai, des gens qui nous disent « Mon père a été oublié, ma mère a été oubliée, on a vécu la même chose.
Mmh. »
Les gens qui n'ont peut-être pas eu le courage de se battre par manque d'énergie, par fatigue. Il faut comprendre que c'est extrêmement fatigant de vivre ça. Nous autres, ça a été 2 mois. Il y en a que c'est 1 an, il y en a que c'est 2 ans. Donc, on a décidé de le faire pour tout le monde. Puis de sortir pour que ces gens-là aient une parole. Puis Jacques qui nous disait toujours « Donnez parole aux autres. » Moi, c'est fait. Je peux pas revenir en arrière. Moi, c'est fait, mais donnez la parole aux autres. Faites que les autres ne soient pas oubliés, puis faites que le nom de Jacques Tisdale tombe pas dans une boîte de carton, dans un oubli de la filière 113, dans un étage à l'Assemblée nationale où on va dire, ben lui est décédé, puis ça va s'éteindre. Faut pas que ça s'éteigne. Il faut que le gouvernement mette ses culottes à un moment donné puis qu'ils disent, là, là, des gens, on n'en oublie plus.
Là, il y a eu la mise en demeure. Est-ce qu'il y a eu des réponses à ça? Et dans que oui ou non, c'est quoi la suite des choses?
Ben, étrangement, on n'avait pas eu de réponse jusqu'à hier, jusqu'au moment où le texte du Journal de Québec est sorti en début d'après-midi.
Drôle de hasard.
On croit plus aux coïncidences, malheureusement. Mais les réponses ont été, se sont suivies de 3 minutes de décalage entre les réponses pour nous dire qu'il allait avoir besoin de documents pour prendre position dans le dossier. Ils nous ont demandé de ne pas prendre de procédure judiciaire le temps qu'eux autres regardent leur dossier de leur côté. Il a fallu qu'on sorte encore une fois, malheureusement, dans les médias pour dire ben on veut être entendu, puis on veut être écouté quelque part, puis donner la voix encore à mon père pour en fait que même s'il est décédé aujourd'hui, qu'il soit encore là.
Puis dans ce combat-là, comment tu vas, toi? Comment va la famille?
On se relève.
Oui, c'est ça, quand même, réussir à avoir cette force-là.
On se relève. Écoute, moi, j'ai une entreprise, fait que ça fait beaucoup de travail à faire entre les deux. Je pense que, honnêtement, j'ai dit, il y a quelques semaines, j'ai dit à des gens, ben je vais faire mon deuil quand je vais avoir fini.
Ouais.
Je sais que ça va être long. Je m'attends pas à avoir d'amis de ce côté-là, dans ces gens-là sur lesquels on poursuit. Mais je veux qu'ils comprennent une chose. Je suis un Teasdale. Je suis le fils de Jacques Teasdale. On a la même mentalité. J'ai une tête dure. Je suis hyper tenace. Puis ça me fait pas peur. T'sais, vous savez, je vous disais tantôt avant de rentrer en onde, c'est des 4-5 avocats par médecin. Oui. Ça m'impressionne pas. Ouais. Parce qu'on a un dossier qui est complet. On a un dossier qui est écrit. Maintenant, prouvez-moi que vous avez fait le contraire. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai, c'est que ça me dit que vous ne l'avez pas fait.
Mmh. Olivier, bon courage. Merci d'être passé nous voir pour nous raconter l'histoire de ton père. Tu nous tiens au courant de la suite des choses?
Ouais, absolument, absolument.
Merci d'être venu partager.
Merci à vous de nous donner la chance de faire entendre encore Jacques, même s'il est parti. Puis je pense que, on ne sait pas s'il y a quelque chose d'autre bord, mais je pense que s'il est en haut, il sera encore fier de savoir que vous lui laissez cette chance-là. Puis je vous remercie. Bon. Puis, c'est très apprécié.
Bon courage, Olivier.
Merci.
On s'arrête 2-3 minutes.